Alors Paul a mis la pression là, avec sa petite histoire de pasteur là. J'espère que je ne vais pas avoir un post-it cet après-midi, enfin ce matin, pourquoi je dis cet après-midi. Prédication, toujours un défi quand même hein, de s'adresser à des personnes comme vous et puis essayer d'exposer la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous poser une question absolument essentielle et existentielle. Faut-il manger de la viande ? Alors vous dites peut-être que Eric est en train de devenir végétarien ou pire, vegan. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu comme un ami de l'église de Pau, un ami allemand, Dirk Schamlöffel, qui disait, moi je fais régime, je mange 5 viandes et 5 charcuteries par jour. Alors en fait, le problème, ce n'est pas... La question, c'est faut-il manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles ? Voilà une question que se posent les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, avec... l'apôtre Paul, concernant la question « peut-on manger ? Faut-il ? Doit-on ? Ou peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Nous savons, etc. » Et je vous rappelle que depuis quelques mois déjà, nous faisons une série sur l'épître de Paul aux Corinthiens qui a été interrompue par notre campagne sur l'écoute qui s'est terminée vendredi soir. Et donc nous recommençons cette série et on a déjà vu pas mal de choses. Vous vous souvenez de Corinthe, bien connue pour les lecteurs de la Bible et pour ses raisins, les raisins de Corinthe. Et puis on a vu, quand Dieu nous appelle à être saints, l'appel de Dieu, les divisions dans l'Église, Dieu serait-il fou à, non pas à lier, mais à louer la folie de Dieu, plus sage que la sagesse des hommes. Question de comment on bâtit sa vie, et puis aussi le cœur du serviteur entre fragilité, obéissance et persévérance, 1 Corinthiens 4, le disciple et la discipline, alors voilà une question qu'elle est bonne, la discipline en tant que disciple, le corps a ses raisons, on parle pas mal de corps, de soma dans le Corinthien, et puis on avait terminé il y a quelques semaines, lit simple ou lit double, la question du célibat ou du mariage, ou vous voyez le dessin, ou c'est compliqué. Et aujourd'hui, on arrive à 1 Corinthiens 8, c'est le 9e épisode que nous allons lire ensemble. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons, mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître, mais celui qui aime Dieu, celui-là, est connu de Dieu. Qu'en est-il donc de la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles ? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, pour qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leurs habitudes ou leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors, leur conscience qui est faible, asthénique, se charge de culpabilité, mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu, en manger ou pas, ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Supposons en effet que l'un d'eux te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie. C'est pourquoi, si ce que je mange devait causer la chute de mon frère ou de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Ça, c'est du texte biblique. Alors, c'était un problème du premier siècle, mais ça peut nous donner des idées sur des questions du même genre au XXIe siècle. Je vous donne un exemple. Quand on était à Orléans, il y a plus de 15 ans, il y a un restaurant fast-food, le Quick, d'Orléans, qui voulait ouvrir un restaurant qui ne vendrait que de la nourriture ou des hamburgers halal. C'est-à-dire de la viande provenant d'animaux égorgés et non pas étouffés dans leur sang, comme l'islam l'ordonne, la viande halal. Alors, il s'est avéré qu'il s'agissait simplement d'une intention qui ne s'est jamais réalisée. Mais l'annonce a été suffisante pour susciter des questions d'ordre culturel. En tant que citoyen français, était-il acceptable qu'il y ait des restaurants quick exclusivement halal ? Et s'il y avait des McDonald's cacher ? Question pratique aussi, si je suis chrétien et si un ami musulman m'invitait pour manger un hamburger halal dans un quick halal, quelle devrait être ma réaction ? Je dis oui ou non, ou je botte en touche et je dis peut-être une prochaine fois. Question de conscience aussi, est-ce différent si cet ami musulman m'invite chez lui et partage un bon couscous halal, avec de la viande halal dedans? Est-ce que c'est différent? Où se situerait le problème? Est-ce que c'est parce que le quick est public et l'invitation privée? Wow, oui, c'est difficile ces questions-là. Il y a un débat et des questions autour d'un hamburger halal, et surtout une question qui dépasse le cadre de la viande et qui va toucher d'autres problèmes, des problèmes de culture, de religion, de conscience, de liberté, de respect de l'autre, de témoignage aussi. Pas facile, cette question de viande sacrifiée aux idoles. Et si nous revenons à Corinthe, je rappelle que Corinthe est une grande ville commerciale, un carrefour de plusieurs cultures qui a ses propres Jeux Olympiques. Enfin, c'est pas des Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, ça vient d'Olympe, mais c'est des Jeux ismiques, l'isthme de Corinthe, avec un brassage de cultures, un monde mélangé, un monde compliqué pour le chrétien qui est là, de première génération. Et les questions que posent les Corinthiens à Paul se résument à celles-là. Comment vivre l'évangile dans ce monde si compliqué? Et surtout, dans un monde sans Dieu. Dans un monde qui adore d'autres dieux. Et à Corinthe, il y a des dieux à chaque coin de rue, avec un petit dé, des temples païens, avec des prêtres qui font des sacrifices d'animaux à ces petits dieux locaux, et une partie de la viande est brûlée en sacrifice lors de ces cérémonies païennes, et elle est consommée par les adorateurs du temple, et les temples comportaient une petite salle de restauration pour manger ces viandes sacrifiées, grillées, pour les idoles. Et une autre partie était réservée aux prêtres pour leur consommation personnelle, ou même les prêtres vendaient cette viande pour arrondir leur fin de mois. Et puis, il y avait des fêtes, ou des anniversaires, ou des fêtes d'associations d'entraide, ou encore des rencontres de corporations professionnelles qui se réunissaient dans les temples et qui donc consommaient de cette viande sacrifiée aux idoles, au dieu de ce temple, sous le patronage de ce même dieu local. Et ce qu'il y a de délicat, c'est que toute l'activité sociale, la vie sociale, était autour de ces banquets. Là, vous avez le banquet de Bruegel l'Ancien, ou le Jeune, je ne sais plus. Ces banquets, c'était la vie sociale. Ces moments où on consommait des viandes sacrifiées à des idoles, c'était toute la vie sociale, les relations sociales et professionnelles. Alors, le chrétien pouvait rester chez soi, dans sa tour d'ivoire. Mais quid du témoignage? s'il n'est jamais là. Ou alors il y va, et le risque est de se mettre dans un engrenage qui amènerait peut-être finalement les chrétiens de Corinthe à retourner au paganisme. Et là, le témoignage serait encore plus désastreux. Bon, quel monde compliqué. Voilà un petit peu le problème posé, mais il est clair dans ce passage que le problème ne se situe pas au niveau de la viande elle-même, et Paul le dit bien, mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu ou manger, ou ne pas nous en manger, ou ne pas, ou pas, ne nous rendra ni meilleur ni pire, excusez-moi. La viande, l'aliment est indifférent. La viande en elle-même, sacrifiée aux idoles, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est moralement neutre. Et c'est ce que Paul va démontrer dans toute la première partie. Les idoles ne sont rien. Elles n'existent pas. Leur existence n'est qu'un prétendu d'existence. Et c'est ce qu'il dit au verset 5. Certes, il y a beaucoup de prétendus Dieu et Seigneur. Et là, Paul constate simplement que dans le monde païen, on invente des dieux à l'appel, mais qu'il n'y en a qu'un, Shema Israël, Adochem Elokeinu, Adochem Ehad, l'Éternel, et un, on l'a vu pendant la période, la campagne écoute. Les idoles ne sont rien, et la viande sacrifiée aux idoles n'est rien. Et Jésus dira lui-même, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui va le rendre impur. C'est ce qui sort de l'homme qui va le rendre impur, ce qui sort du cœur. Et donc avec la viande et la nourriture, on est dans un domaine neutre. Alors on pourrait discuter du mot neutre, hein, qui est un peu ambigu, difficile. Neutre, oui, peut-être, mais ça dépend pour qui. Et c'est bien là le problème, neutre, mais ça peut changer, cette neutralité peut changer en fonction des situations et surtout des personnes. Alors pour nous, amis du XXIe siècle, je vais citer quelques domaines qui sont décrits comme étant neutres. Et vous allez voir que on pourrait avoir des réactions un peu différentes et vous dire « Ah non, ça c'est pas du tout neutre, Eric !» Alors évidemment, ça dépend de la culture, de sa conscience, de son éducation, de son vécu. Alors j'ai une liste là que j'ai lue quelque part dans un commentaire, je me cache derrière ce commentaire. Voilà des domaines qui pourraient être taxés de neutres. Une question neutre. Alors, qu'en est-il de la question de l'alcool pour le chrétien? Moins en France ou en Belgique, mais vous savez, chez les Américains, les baptistes, en particulier les baptistes du Sud, hein, l'alcool, et même les baptistes polonais, hein, c'est niette, rien. Pour nous, c'est un peu différent. Mais voilà, question neutre. La cigarette. Bon, il fut un temps où on disait, le chrétien ne peut pas fumer. Moi, j'ai fumé. Mais on pourrait parler du cannabis aujourd'hui. Neutre. Ouais, je vous vois déjà. Une petite histoire. Mon père était ami avec un pasteur hollandais et marié avec une Française de Nîmes. Il s'appelait Jos Los. Et il avait été pasteur dans le sud de la France, près d'Alès, et pasteur aussi en Hollande. Et il nous racontait la différence de culture. En Hollande, les réunions du conseil de l'église, tout le monde fumait. Et tu ne voyais pas le conseiller d'en face. Il y avait la fumée, la réunion de prière. Cigarette. Je parle des années 60. Et il va en France. Là, non, les chrétiens ne fument pas. Mais au conseil, ils sortaient le litre de rouge pour boire un petit canon. Alors qu'en Hollande, l'alcool, non. Et en France, la cigarette, au conseil, la cigarette, non. Wow. C'est marrant, la culture. Enfin, c'est marrant. C'est intéressant, on va dire. L'alcool, le travail le dimanche, il y en a encore qui en parle de ça. Les arts martiaux. Bon, ça date un peu peut-être cette liste, mais... Le rap, la musique. Moi, j'étais à l'église d'Orléans et on voulait organiser un concert de rap, même chrétien. Et puis, un membre du conseil, que que Marc connaît, lui, il s'appelle Dominique, je sais dire quelque chose, il m'a dit, ah, moi, j'ai toujours cru que le rap et le chrétien, c'était antinomique. Il me semble qu'à l'époque aussi, le jazz était mal vu. Il me semble qu'à un moment aussi, la musique qui était en mineur était mal vue aussi. Il fallait jouer en majeur. Je ne connais pas la différence, mais... Mais bon, la question de la musique dans les églises, parmi les chrétiens, ça a fait du bazar. L'incinération, on en parlait encore récemment. Est-ce que la danse en boîte, alors je crois qu'on dit plus boîte maintenant, mais est-ce qu'on peut aller danser en boîte de nuit ou en soirée privée? Le poker ou les jeux de hasard, le piercing, les fringues, l'habillement, les mini-jupes dans les années 60, ou les t-shirts très, très rares dans les années 2000 et quelques. Les réseaux sociaux, ça c'est moi qui ai ajouté. Neutre, mais... Et puis, tout ce qui pourrait. Et je vous entends déjà dire, non là, excuse-nous Eric, mais ça c'est pas neutre. Parce que je connais quelqu'un qui a commencé par ça et qui a fini par ça. Et je suis d'accord. Et je vous comprends, tout se discute quand c'est neutre, tout dépend de ce qui se met derrière. Mais Paul est d'accord avec Jésus, ce qui rend la viande impure, c'est l'homme. Et il va dire dans Romains 14, verset 14, Paul, « Je suis pleinement en accord avec la pensée du Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » C'est le cœur de l'homme qui fait toute la différence. Et justement, pour aller au cœur de la question, je vous propose de dégager deux principes de 1 Corinthiens 8 sur « Faut-il manger de la viande sacrifiée aux idoles ?» ou « Le chrétien en zone neutre ?» Et des deux principes qui pourraient nous aider, nous inspirer aujourd'hui dans notre monde complexe. Et le premier principe, c'est d'abord le principe de la liberté. Rester libre. Et elle en parle, au verset 9, le texte en parle, Paul en parle, et la liberté est inscrite dans les murs de l'Écriture sainte. Liberté, bien sûr, il y a une mise en garde par rapport à cette liberté, mais elle n'est pas fondamentalement remise en question, la liberté. Le chrétien est libre, et en particulier dans ses zones neutres, et il n'est pas question de se faire voler sa liberté. Et dans l'Épître aux Colossiens, Paul met en garde les chrétiens contre les voleurs de liberté qui imposent toutes sortes de règles. Je cite, et vous lisez, « Ne vous laissez pas juger par personne à propos de ce que vous mangez et de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête ou de sabbat. Ne vous laissez pas voler votre liberté par ceux qui disent et répètent « Ne touche pas à ceci, ne mange pas à cela, ne prends pas de ceci. » C'est dans la Bible, Colossiens 2. Et ces gens-là, vous savez comment on les appelle ? On les appelle les légalistes. Des chrétiens légalistes. Et ils sont nombreux dans les églises qui font des lois pour eux-mêmes et surtout pour les autres qui veulent que tout le monde applique leurs petites règles alors qu'on est en zone neutre, alors qu'on est en zone libre. Mon grand-père, Opa van der Does, en Hollande, qui était diacre dans une église de 400 personnes, disait à mon père quand celui-ci, dans les années 40, lui demandait s'il pouvait aller danser, mon grand-père disait à son fils Lindert, mon père, « Oui, tu peux aller danser, mais à la cave et avec ta sœur. » Et mon père, et ce n'était pas la seule règle, et mon père a beaucoup souffert de ce légalisme hollandais, protestant réformé hollandais de l'époque. Et c'est peut-être pour cela qu'il a quitté la Hollande à l'âge de 20 ans pour arriver à Lyon et rencontrer ma mère. Alors il faut faire attention à ne pas confondre les légalistes qui font des petites règles partout avec les frères faibles dont on parle dans le texte mal affermis dans la foi et dont nous parlerons tout à l'heure. Les légalistes ne sont pas des frères faibles, ce sont des faux frères faibles. Et quelqu'un les appelait d'ailleurs des faibles professionnels. Je vous demande pardon pour cette image où on voit une religieuse avec son bâton et prête à faire... Alors, je connais des religieuses absolument délicieuses, mais bon, c'est parfois l'image avec la règle plate, là. Elle doit, surtout les mères supérieures, elles doivent faire... Bon, bref, elles font des règles. Et donc, des chrétiens légalistes ne sont pas des frères faibles ou mal affermis dans la foi. Au contraire, ils sont bien affermis dans la foi, il n'y a pas de souci, mais ils voudraient que tout le monde fasse comme eux, et partout où ils passent, et en particulier en zone E, ils font des règles pour que tout le monde, et pour tout le monde, et du lobbying appuyé pour que tout le monde respecte ces petites règles. Ils n'ont aucun problème de conscience. Ils sont sûrs de leurs faits. Il faut marcher comme eux, ils marchent, un point, c'est tout. Et il faut se méfier. Et faire preuve de discernement à leur égard, ce n'est pas la vie chrétienne de se mettre au pas de ces légalistes de tout poil. La vie d'Église, ce n'est pas se soumettre à la tyrannie du légalisme, mais c'est vivre dans l'Esprit du Seigneur. Et là où est l'Esprit, nous dit la parole, là est la liberté. Rester libre, c'est ne pas se faire voler sa liberté en zone neutre. Il ne s'agit pas, au nom de la liberté, de tomber dans la permissivité ou le laxisme. On parle bien de la liberté en zone neutre pour des questions de viande sacrifiée aux idoles. Et au chapitre 10, Paul dira, de 1 Corinthiens, « Vous pouvez manger de tout. » Si un non-croyant vous invite et que vous désirez accepter son invitation, ne vous prenez pas la tête, savoir si c'est halal, kasher ou autre chose. Vous êtes libre. Premier principe, ne pas se faire voler la liberté. Mais il y a un deuxième principe qui vient un petit peu tempérer notre ardeur à la liberté chrétienne et qui occupe toute la deuxième partie du chapitre 8. Deuxième principe, restez sensible. Restez sensible aux autres et en particulier envers ceux que Paul appelle les frères faibles, plus ou moins mal affermis. Alors, qui sont-ils? Ce ne sont pas les légalistes. Ça, c'est des faux frères faibles. On ne doit pas faire tout ce que les légalistes nous demandent. Mais les personnes avec la foi mal affermie, ce sont des amis chrétiens qui se posent des questions de conscience, comme le dit le verset 7, Paul. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités-là. C'est-à-dire que l'on est avec les viandes sacrifiées aux idoles en zone neutre. Ils sont encore marqués, nous dit le texte, dans leur conscience par leur habitude de rendre un culte aux idoles. Et ils continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes aux idoles. Donc, ils sont en train de... Ces frères faibles ou mal affermis dans la foi, ils se posent plein de questions. Alors, leur conscience, nous dit le texte, qui est faible, se charge de culpabilité. Ils ont la conscience troublée. Et le risque pour eux, c'est de revenir au culte païen, proprement dit, puisqu'ils sont marqués, nous dit le texte, marqués dans leur conscience par cette habitude, marqués par des réflexes, malgré des émotions qu'ils avaient alors qu'ils étaient sans Dieu. Et on peut peut-être comparer ce risque de retomber à ses anciennes habitudes à celui de l'ancien alcoolique, libéré de l'alcool, mais troublé quand on lui propose un verre d'alcool. Ou celui qui, le toxicomane, qui a arrêté avec la drogue, quand quelqu'un lui propose une taf de sa cigarette de cannabis. Le trouble. Et on n'a peut-être jamais vécu cela, mais on n'imagine pas le trouble, le remue-ménage intérieur que cela peut provoquer chez ces personnes qui ont été libérées, soit, mais encore fragiles. Et parce que ces personnes sont fragiles dans leur conscience et parce que Jésus a donné sa vie pour ces personnes aussi, alors les forts vont être sensibles à l'égard de ces personnes. Et ils vont être prêts à mettre leur connaissance de côté Et ils vont se mettre à aimer véritablement les frères et les sœurs en Christ, surtout les plus fragiles. Et quand on lit ce chapitre 8, on est frappé de la force de conviction que met Paul pour convaincre les forts, ou on va dire les chrétiens, non, je ne vais pas dire normaux, mais ben, forts, pas si forts que ça, mais bon, les chrétiens plus stables, on va dire, d'être sensibles aux plus fragiles. Et d'ailleurs, il semble que les chrétiens forts de Corinthe n'étaient pas si forts que ça en sensibilité. Ils étaient plutôt forts en connaissance de leur liberté, forts en gueule peut-être, forts dans la revendication de leurs droits, mais ils n'étaient pas très sensibles aux autres. Un peu gonflés, les forts. Et Paul aura ces phrases choc à leur encontre. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Verset 11. Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Faire tomber son frère, être une occasion de chute, c'est un mot en grec, la langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament, c'est le mot scandalon. Une occasion de chute, un scandale. Et même le petit mot scandalone signifierait ou désignerait la petite tige en bois qui déclenche le piège. Elle saute, pof. Moi, je ne veux pas être cette petite tige de bois qui déclenche le piège pour l'autre. C'est ce que dit Paul. Il ne faudrait pas que je sois celui qui, à cause de sa liberté, déclenche le piège pour les autres. Ça ne le fait pas. Et il faut ces vocabulaires forts pour que les forts de Corinthe et tous les autres comprennent que leur liberté s'arrête là où commence non seulement la liberté de l'autre, mais là où commence, comment j'ai dit ça, ma liberté s'arrête là où commence la sensibilité que j'ai pour l'autre. Ma liberté, oui, mais avec la sensibilité à l'égard de l'autre. Et l'important dans l'histoire, ce n'est pas ma défense de ma liberté ou de mes droits, mais le plus important, c'est l'amour. Et le premier verset du chapitre le dit très bien, la connaissance rend orgueilleux, la connaissance gonfle, mais l'amour édifie, ou la Nouvelle Bible en français courant le dit, l'amour construit l'autre. L'amour édifie. C'est un peu le grand thème de l'épître de Paul aux Corinthiens, et on verra dans quelques semaines le chapitre 13, le chapitre sur l'amour. Et pour l'articulation entre la liberté et l'amour, il y a cette phrase de saint Augustin qui, c'est pas la première fois qu'on le cite, mais là c'est magnifique, « Aime et fais ce que tu veux ». Ce n'est pas « fais ce que tu veux et essaye d'aimer en fonction... » Non, aime l'autre et fais ce que tu veux. La liberté se termine là où ma sensibilité pour l'autre commence. Et puis, on a cette devise que je répète dans notre Union des Églises Libres, mais qui est une devise bien connue, dans les choses essentielles, fidélité à la parole de Dieu, dans les choses secondaires, liberté. En toute chose, charité, c'est-à-dire l'amour, l'agapé. En toute chose, rechercher les intérêts de l'autre, être sensible à l'autre, voilà un autre principe pour vivre comme disciple de Jésus-Christ en zone neutre. Alors, ça semble évident comme cela, mais là où en général ça coince, c'est au niveau de la sensibilité. On pourrait se poser la question, est-ce que je suis sensible? Est-ce que je me préoccupe vraiment de l'édification de l'autre? De la construction de l'autre? Où en suis-je? Question sensibilité. Et on peut se remettre en question, mais il ne faut pas perdre courage pour autant. Nous sommes tous dans le même bateau, à ramer à contre-courant de notre nature humaine, Et les chrétiens de Philippe sont dans le même bateau et ce sont pourtant de bons rameurs, mais pourtant Paul va leur dire que votre amour augmente en toute connaissance et en vraie sensibilité. Si ça coulait de source, Paul ne ferait pas d'encouragement inspiré pour que leur amour croisse en connaissance et en sensibilité. Il le fait parce que ça ne va pas de soi. Même pour les Philippiens, qui sont connus pour leur amour et pour leur foi. Que notre amour augmente en connaissance et en sensibilité, et en particulier par rapport, ou en particulier quand nous arrivons en zone libre. Deux principes donc pour cette histoire de viande. Vous voyez, on a fait du chemin depuis la première diapositive. Faut-il rester libre envers et contre tous, surtout les légalistes de tout poil? Et deuxième, rester sensible aux autres, en particulier les plus fragiles dans la foi. Alors, comment appliquer ces principes pour les quick halal, ou pour le poker, ou l'alcool, ou les réseaux sociaux, ou la musique gaga? Je parle de la chanteuse. C'est pas l'esprit de la maison de donner des directives. Du haut de la chair, ce serait vivre selon la chair, ça. Mais de faire appel simplement à l'Esprit Saint. Et le mot de la fin, c'est que le Saint-Esprit nous rende libres d'être sensibles aux autres. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole, toujours actuelle, vivante et pertinente. Amen.